Nagui,
Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Bonjour.
Jérémy Crépy.
Bonjour.
Tanguy Pastureau. Et notre invité, Karine Viard.
Bravo.
Bonjour Karine.
Bonjour.
Tout va bien.
Double bande originale.
Ouais, ouais.
Double générique.
T'es parti dans tous les sens. Ravi de vous accueillir.
Merci.
En tout cas avec votre énorme thermos.
Ah, qu'est-ce qu'il y a... que vous alliez dire autre chose.
Qu'est-ce qu'il y a dans votre énorme talent.
Des cendres.
Énorme talent.
Énorme ouais, ça, talent.
C'est vrai.
Ça c'est vrai. Et juste avant que vous n'arriviez, nous étions en train de parler. Ben nous oui, entre nous, nous disions que c'était un bonheur.
De vous voir.
Un, de vous accueillir évidemment, et deux, de vous voir au cinéma, au théâtre, dans tout ce que vous faites.
Parce que Quel que soit le registre.
Ouais, parce que vous portez, il y a à la fois évidemment votre popularité, puis votre talent de comédienne qui est dingue.
Plus
qui
la popularité.
Je sens que j'ai bien fait de me
lever. Et on n'arrive pas complètement à vous détester, même si vous incarnez parfois des personnages qui ne sont pas simples à considérer. Ouais.
Chanson douce, c'est au cinéma ce 27 novembre avec, ça s'appelle Demain.
Ouais, c'est demain.
Un dodo. Ça va être demain.
Un dodo et une chanson douce, t'imagines le programme?
Ouais, c'est
voilà.
Ça va bien, ça. Un dodo et une chanson douce.
Absolument.
Un dodo et une chanson douce.
Vous avez compris, Nagui.
Non, vous êtes moins bien.
Vous êtes une nounou. Alors, c'est l'adaptation du roman de Leïla Slimani. D'ailleurs, a-t-elle travaillé sur cette adaptation avec Maïwenn, Jérémy, Lucie?
Non, pas du tout. Elle a donné les droits et elle a décidé de plus s'en occuper.
Elle a vendu les droits, si je peux me permettre.
Oui, elle a vendu les droits.
Vous êtes battue d'ailleurs pour que ces droits soient acquis. C'est vous qui êtes à l'initiative
du
projet.
Oui, tout à fait. En fait, je me suis pas du tout battue. C'est-à-dire que moi, j'ai lu le livre et je l'ai refermé. Je me suis dit, oh là là, j'aimerais tellement, avant même de le refermer, j'aimerais tellement jouer cette nounou. Donc j'ai demandé à un ami producteur s'il pouvait acheter les droits pour moi. Mais je pensais que les droits étaient achetés depuis déjà très longtemps parce que le livre était sorti quelques mois auparavant. Il avait eu le Goncourt.
Déjà récompensé, voilà.
Exactement. Et en fait, elle allait donner sa réponse, Leïla Slimani, quand on est arrivé. Et en fait, on a fait une espèce de queue de poisson sans même le savoir. Et c'est nous qu'elle a choisi.
Ça a joué le fait que ça soit vous,
oui. Ouais. Je pense que ça a joué, mais au milieu d'autres choses aussi. C'est pas tant que ce soit moi, c'est que... Elle me dit que la façon dont je lui ai parlé du personnage, ça lui plaisait beaucoup.
Oui, parce que vous étiez très très nombreux sur le coup. Hein,
absolument, oui, très nombreux. Absolument.
Alors vous avez parlé comment du personnage? Parce que là où nous sommes embarrassés, nous, pour en parler, c'est que peut-on dire du personnage? Évidemment, on a tous lu le livre et reçu Leïla Slimani ici. On n'est pas sorti forcément indemne de la lecture du livre, qui est juste une drôlerie. Tellement il est bien écrit et tellement le sujet part d'une histoire vraie aux États-Unis en 2012. On ne sait pas trop, on se pose la question de que dire du film et qu'est-ce que l'on peut raconter.
Moi je sais que ce qui m'intéressait beaucoup chez ce personnage, c'était l'espèce d'humiliation. Alors.
C'est formidable. Donc il y a un décalage.
Quelqu'un qui écoute la radio.
Il y a quelqu'un qui dit c'est formidable. C'est la radio qui passe sur Internet avec le décalage de la question que je vous pose. C'est beau. Merci pour votre fidélité.
Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir le rapport social entre les deux, c'est-à-dire l'humiliation sociale que cette femme subit, et comment les prises de pouvoir passent du couple à cette nounou. C'est-à-dire que cette nounou, c'est leur employeur, et en même temps, à un moment donné, elle prend possession de la maison et n'ose plus rien lui dire de peur qu'elle le prenne mal.
Mais c'est les emprises des uns des autres. C'est Mary
Poppins
aussi, c'est la nounou idéale, celle qui range tout, celle qui...
C'est la nounou idéale pour des patrons qui ne sont pas idéaux parce qu'ils savent pas non plus très bien mettre de limites.
Ouais.
En fait, à un moment donné, il y a des rapports affectifs qui se jouent. Mmh. Ils lui font croire qu'elle fait partie de la famille parce que eux-mêmes le croient. Puis à un moment donné, ça les arrange plus.
Ils partent en vacances ensemble.
Donc ils lui disent finalement, en fait, tu fais plus partie de la famille. Mmh. C'est ça, c'est ces violences-là, en fait, qui sont très, très compliquées.
Et c'est la difficulté aussi parce que c'est une femme qui arrive dans ce foyer qui est un foyer un peu douloureux. Le deuxième enfant vient d'arriver. La femme incarnée par Leïla Bekti veut retrouver son autonomie, veut retrouver sa vie professionnelle aussi. Donc vous arrivez, vous réglez tous les problèmes. Donc forcément, on a tendance à pas laisser de barrières. En fait, c'est finalement parce qu'elle est tellement, investie. Elle a tellement envie d'exister, d'avoir une place.
C'est son boulot et elle le fait très bien. Et comme elle est très rigide et qu'elle a une haute idée de son métier, c'est vrai qu'elle le fait extrêmement bien. Le paradoxe après, c'est qu'effectivement, et c'est là-dessus que joue le film et la peur, l'angoisse. C'est tout ça, puisqu'on est quand même aussi du côté du thriller, c'est que on confie à quelqu'un que finalement on connaît très peu la chose la plus importante pour soi, c'est-à-dire ses propres enfants. Et ça se passe voilà dans laps de temps où les parents ne savent pas ce qui se passe entre cette nounou et ses enfants.
Courage aux parents là qui cherchent une nounou en ce moment, parce que franchement, quand on a vu ça,
le casting, la rencontre de nounou au début du film est assez rigolote aussi.
C'est tellement vrai.
J'ai mal à la cheville quand il fait chaud.
Réalisé par Lucie Borloteau avec Karine Viard, de plus en plus inquiétante au fur et à mesure que le film avance. Ouais. On va continuer d'en parler. Mais d'abord, des questions concernant Karine Viard. Karine a vu Blanche-Neige au cinéma. Vous aviez 6 ans. De quoi se souvient-elle le plus ?
Des nains. La pomme.
La pomme, non. Tu dis quoi ?
Des nains ?
Du chasseur.
Du miroir.
Non.
Non. De la méchante. Alors, du générique, de la musique.
Le cœur.
Alors
coeur.
Justement, éloignez-vous un peu.
Alors
voilà, c'est ça. Sortez un peu du film et remettez-vous dans le cinéma. Elle va au cinéma, elle a 6 ans.
Ce qu'elle mange ?
Alors, c'est pas l'ouvreuse, c'est pas ce qu'elle mange.
Qu'est-ce qu'on fait quand on est enfant au cinéma ?
Le cinéma, lumière,
l'endroit, c'est...
Non. Les voisins, le fait qu'il y avait des gens autour d'elle, des
couples,
des
garçons.
Le trajet pour aller au cinéma.
La queue. Alors, le haut, exactement.
La queue.
La queue. La file d'attente.
La file d'attente.
C'est ça qui vous a marqué,
c'est d'attendre
pour le spectacle.
Ouais, ouais. C'est qu'il y avait tellement de monde. Déjà, j'étais avec mes grands-parents, donc j'avais un peu de foin dans les chaussures encore, hein. Et je débarquais en plus d'Algérie, où vraiment j'étais pas allée au cinéma. Et du coup, voilà, il y avait cette longue file d'attente de petits enfants comme moi qui attendaient. Je savais pas trop ce qu'on attendait, en fait. Mais je voyais que tout le monde était très excité. Et ça m'avait vraiment impressionné.
Est-ce que c'était une montée aussi, cette attente-là, ne faisait qu'augmenter le désir de voir le spectacle et,
Non, parce que je ne savais pas du tout ce qui se passait.
Bah, vous saviez que vous alliez au cinéma, quand même.
Oui, mais je ne savais pas ce qu'était le cinéma.
C'est une découverte.
Ah ouais.
Ah, je n'avais aucune idée de ce qu'était le cinéma. J'étais jamais allée au cinéma.
Ah, c'était une vraie première fois. D'accord.
Oui, une vraie première fois.
quel effort écolo Karine Viard a-t-elle beaucoup de mal à faire ?
Et elle
n'est pas la seule. Non.
Non.
Elle n'est pas la seule. Quand on a fait le sondage dans l'émission sur la Terre, exactement. Quand on avait fait le sondage sur l'émission sur la Terre, sur les 10 possibilités, c'était celle qui était la plus
difficile à tenir,
c'est de ne plus prendre l'avion.
Ouais, tout à
Quels
fait.
Sont tous les autres gestes écolos qui, à part le thermos et la gourde, qui ont changé chez vous depuis quelques années, j'imagine?
Franchement, je mange très peu de viande.
Ouais.
Alors qu'avant, j'en mangeais beaucoup. Je prends pratiquement jamais de bain. Évidemment, je fais le tri. Bon, ça, c'est le minimum.
Vous pouvez essayer la douche quand même. Ce serait pas pour nous.
Je prends quelques douches de temps en temps. Évidemment, je coupe l'eau quand je me brosse les dents. Mais tout ça, c'est devenu des gestes habituels,
des
en fait.
Hein.
Ouais, c'est vraiment devenu
en des essayant réflexes. D'éliminer le plus de déchets possible aussi, le plastique, les emballages,
oui,
acheter en vrac.
Oui, tout à fait. Ça, je trouve ça bien aussi. Je trouve ça bien d'avoir ses propres contenants et tout ça. Je trouve ça franchement bien.
Mais l'avion, là, pour aller
l'avion,
d'un point A à un point B sur la planète.
J'ai une petite maison en Espagne, tout ça, c'est compliqué. Ouais, franchement, l'avion, c'est compliqué, mais s'il fallait le faire, je le ferais, mais c'est compliqué.
C'est honnête, en tout cas, de le reconnaître. Un lieu qui... Je te rappelle que les montgolfières vont là où le vent les mène, et pas forcément là où tu veux aller. Non, mais t'as jamais fait ça. J'ai fait un vol en montgolfière, et quand t'as le comment on appelle ça, le pilote, je sais pas, enfin celui qui conduit, oui, qui te dit, tu dis, et on va aller où? Mais il dit, ah ben on sait pas. Là, t'as un petit moment de solitude.
Comment
quand
ça,
même.
On sait pas.
Ben non, c'est
quand
pas. Tu sais pas.
À un moment t'atterris, il faut bien que quelqu'un vienne te récupérer. Ou
oui, bah, le mec il appelle quelqu'un, il amène quelqu'un en 4x4 diesel qui vient te chercher. Mais en fait, il peut lui, avec la chaleur de l'air dans le ballon, monter ou descendre, suivre les courants de vent en fonction de l'altitude. T'as des courants qui vont à droite, à gauche, au milieu, voilà. Mais il peut pas vraiment te dire où il va. Où il va
on se pose un raca, les amis.
C'est poétique en même temps.
C'est vrai. Et le silence est absolument magique et impressionnant. Un lieu qui angoisse. Karine Viard.
Ascenseur ?
Non.
Les foules ?
Les toilettes ?
Non.
L'escalier ?
Non.
Le noir ?
On est dans un truc sombre.
Église.
La cave ?
Non.
Le confessionnal ?
Non.
Le bureau de Nagui ?
Non. Il n'est pas sombre. Les couloirs ?
Des tunnels ?
Où tu m'emmenais ?
C'est même que le tien si tu acceptais de partager bureau avec nous.
Des tunnels ?
C'est celui-là ?
Parking souterrain ?
Alors oui, un tunnel.
Tunnel. Le Mont Blanc ?
Le plus célèbre.
La Manche ?
Ouais, exactement. Mais bon, on va donner quand même le point à Jérémy.
Partageons le
tunnel sous la Manche. Vous avez peur, quoi, d'être, de rester coincé sous l'eau?
Ah, c'est une sensation d'enfermement. Il faut pas du tout que j'y pense. faut pas du tout que j'y pense. Et quand je vais en Angleterre, je peux pas penser
à ça. Quand vous prenez un train, s'il passe sous un tunnel lambda, ça va. Là, ce qui est impressionnant, c'est d'être sous la Manche.
C'est d'être sous la Manche pendant combien de minutes, je sais pas, d'être envahi, d'être recouvert par la mer et tout. C'est une angoisse pour moi énorme.
Il paraît qu'il craque un peu en ce moment. Je ne refais personne.
Dans quel endroit Karine Viard a-t-elle joué l'école des femmes? Je ne sais pas si c'était la première fois, mais en tout cas...
Au conservatoire, à l'école, au début,
dans une cave.
Non.
Dans un gymnase?
Non.
Sur un parking.
C'est plutôt dans
lieu
un endroit
vacances.
Exactement inversé.
Club Med.
Exactement.
Je suis un champion Karine Viard.
Carton. Parce que votre maman y travaillait.
Ma mère travaillait au Club Med, donc j'y passais un peu de temps l'été, puisque je me partageais entre mon père et ma mère. Et du coup, j'étais allée au Club Théâtre. Elle avait personne, la fille. Il n'y avait que des gens qui passaient, qui restaient une semaine. Donc là, moi, comme j'avais vraiment posé les valises 3 semaines, on avait pu monter l'école des femmes. Et c'était super, j'avais eu vraiment un choc.
C'est la première fois que vous découvrez le plaisir d'être sur scène, d'être sur des planches.
Exactement, c'est ça, absolument.
Avec un public finalement qui ne savait pas ce qu'il allait voir et qui ne venait pas spécialement vous voir. C'est-à-dire que là, ils sont...
Oui, ça c'est sûr, j'avais 13 ans, hein. J'avais 12 ou 13 ans.
Non, mais eux, ils ne savent même pas quel est le spectacle. Ils savent qu'après le buffet...
Parce que l'école des femmes, ce n'est pas la gaudriole quand même. Donc en fait, il y avait une petite soirée théâtre pour les amateurs de théâtre.
D'accord.
Et du coup, voilà.
Ok. Quand Karine Viard s'achète un nouveau pot de crème beauté, à quoi fait-elle attention?
J'adore. La composition, la couleur.
Non.
À l'odeur.
Non.
Au mode d'emploi, si elle peut en mettre plusieurs l'une sur l'autre.
Il y a des animaux morts.
Qu'est-ce qu'on fait?
Alors oui, je comprends
même
la démarche.
Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Hein.
S'il a déjà été ouvert à la forme.
C'est peut-être faux. C'est une interview qui date de 2014.
La forme psychologique.
C'est pas la forme, non.
Alors attends, elle achète un pot. Okay.
Elle achète un pot.
Au nom,
elle
le fait... nom.
Oui, mais alors pour éviter quoi?
Si un jeu de mots, elle le prend pas.
Non.
Pour voir si elle a pas déjà, non, déjà acheté.
Exactement.
Ah oui.
C'est exactement ça. Vous ne voulez pas acheter deux fois. Vous ne vouliez pas, en tout cas, ça peut être changé, deux fois la même crème beauté.
C'est pas faux. Je l'avais oublié, mais ce n'est pas faux.
J'adore
absolument
la démarche de dire, il faut pas que mon corps, il faut pas que ma peau s'habitue à une crème, donc je vais en prendre une autre pour surprendre.
Exact. C'est vrai. Je ne mets jamais deux fois la même crème.
C'est fou.
Vous avez des combats quand même dans la vie.
Ah oui, là, et je ne lâche rien.
Vous avez dit, textuellement dans l'interview, ma peau ne doit pas devenir fainéante. J'adore l'image.
C'est vrai, on dit vraiment des conneries.
Alors j'ai une très mauvaise...
C'est pas si fou.
Le soir, en Belgique.
Ah, le soir.
J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, Karine.
Oui.
Très mauvaise nouvelle. J'ai rencontré il y a quelque temps un monsieur qui est le fabricant
C'est la même, mais...
Attends, non, parce que moi je suis pas prête à entendre n'importe quoi. C'est important, les crèmes.
Okay. Il est fabricant de crèmes hydratantes, anti-rides, vieillesse et compagnie.
Ouais.
Le bonhomme fabrique toutes les crèmes anti-rides, toutes les crèmes hydratantes, toutes les crèmes vieillesse, pour tous les produits, que ce soit le plus économique dans le plus grand supermarché, jusqu'au plus cher, à 8 000 $ le pot de grammes.
Ah, c'est un Américain.
Dans la marque la plus dingue. Ce sont exactement
les mêmes compositions.
Exactement
les mêmes. Et qu'est-ce qui change après?
Le petit truc. Déjà, la marque.
L'odeur.
Quand ils vous mettent dessus que c'est telle parfumerie ou telle eau couturier, pardon. Donc là, ça change. Et puis, ils rajoutent des petits ingrédients qui n'ont strictement aucun effet, du style au caviar de machin ou avec
des larmes de crocodile. Des compositions de crème, moi, par exemple, si je peux me mettre de la crème, j'ai l'impression d'avoir un sac plastique sur la figure, ou au contraire, ne pas la sentir et me sentir parfaitement hydratée. Donc, je ne suis pas complètement d'accord.
Je suis d'accord avec Karine.
Et puis, on peut appeler la Bourse de Paris, là, parce que je crois que Marie vient de faire un gros craque boursier à 11h18 en direct.
Non, mais j'ai halluciné. Je lui ai demandé plusieurs fois. Je lui ai dit.
Non, mais c'est vrai qu'il y avait eu un.
Tu me jures que c'est exactement le même. Il me dit c'est exactement
mais
le même.
Mais je ne crois pas, moi.
Je vais vous donner son 06.
Parce qu'il y a aussi des femmes qui fabriquent leur crème elles-mêmes en laboratoire et tout ça. Elles ne passent pas toutes par ce vieux qui nous dit n'importe quoi.
C'est Nagui,
très énervé. Non.
Mais il y avait une enquête sur les crèmes anti-âge et qui disait que les plus efficaces étaient dans les magasins du type Lidl.
C'est ça.
Oui, tout à fait. Ça, c'est bien.
Le meilleur jean.
Ça, c'est bien, par contre.
Revenons revenons donc à cette chanson douce. Vous incarnez une nounou dans ce film réalisé par Lucie Borloteau. C'est donc vous qui avez initié l'adaptation de ce roman. L'avez-vous suivi, puisqu'il y a Maïwenn Lebesco, Jérémy Elkaïm et Lucie Berthelot qui ont travaillé.
Borloteau, elle a du mal. Hein, pardon, son nom se fait écorcher, mais à longueur de.
Plus maintenant, ça sera la dernière fois. Borloteau qui ont travaillé. Est-ce que vous aussi vous avez suivi cette adaptation en y imprégnant un peu de vous?
Non, pas du tout, parce que je pense que c'est pas du tout ma place. Par contre, comme Lucie a repris le flambeau...
Borloteau, s'il vous plaît.
Lucie Borloteau a repris le flambeau. Et ça, je me suis permise de lui dire deux, trois choses que je pensais. Je pense par exemple qu'elle a rajouté, et qui n'était pas dans le roman, une scène avec des poulpes. Une espèce de vision comme ça avec des poulpes. Et je lui dis, bon, elle est chouette cette scène avec les poulpes, mais je trouve un peu dommage...
Poulpes que l'on voit avant dans
voilà,
un dessin érotique.
Voilà, c'est ça. Je trouve un peu dommage qu'on ne voit ces poulpes qu'à ce moment-là, en fait. Il faudrait qu'il puisse y avoir, avant, dans le film, une ou deux références de ça, qui puissent... où tu puisses te dire, en fait, ces poulpes n'arrivent pas de nulle part. Et du coup, je trouvais que c'était une bonne...
Ils ont une signification et
la... Absolument. Et, du coup, elle les met pendant ce moment de vacances, qui est un moment heureux.
Ça fonctionne parce que quand on voit déjà l'idée des poulpes, je sais pas d'où...
Ouais, ils sont vraiment sombres et tout.
Dans un premier temps, je me dis, oh, ça doit être un serpent, là, le truc qui est en train de bouger noir un peu dans le lavabo.
Ça dure.
Et en fait, ça dure et c'est surtout envahissant. Et la scène, elle est extrêmement bien jouée et bien réalisée parce que c'est en mouvement comme ça, c'est très dynamique et on perçoit et on comprend le message, le clin d'œil fait à l'estampe
que
l'on a vu
absolument.
Avant, qui est beaucoup plus érotique elle.
Voilà.
Mais on comprend aussi qu'elle est
un trouble.
Elle est, ouais, elle est justement son érotisme est trouble, sa
absolument.
Violence et sa folie aussi est trouble.
Absolument. Donc du coup, voilà, j'ai fait ce genre de petites réflexions.
Alors comment gérer déjà nous ce que l'on peut dire et surtout l'ordre chronologique de ce qui se passe dans le film, entre le livre commence par une scène, cette scène est marquante et cette scène est la dernière scène du film.
Alors, en fait, la représentation du livre ne peut pas se faire de façon textuelle, ça marche pas forcément. Et du coup, d'un point de vue de montée du stress,
de la tension en tout cas,
montée de la tension, c'est
thriller,
mieux pour ceux qui n'ont pas lu le livre.
Ouais.
De rester comme ça, parce qu'au fond, tu sens le danger arriver, mais tu sais pas où il va arriver, quand et de quelle façon. Donc c'était plutôt assez bien de conserver ça.
Il y a une perche tendue au début du film avec la voix de Leïla Bekti.
Oui, oui, tout à fait, absolument.
Il va y avoir un problème, on sait qu'il va y avoir un problème en tout cas, mais on ne sait pas lequel.
Voilà, on ne sait pas de quelle nature. Et en fait, ils avaient essayé de coller au livre avec la même structure, et en fait, ça marchait moins bien.
D'accord.
Ça marchait moins bien, là, le suspense reste fort tout le long du film, justement parce que on sait
donc
pas.
Nous ne dévoilons rien
non,
de
voilà,
la fin
ne
du
dévoilons
film.
Rien
et même quand on a lu le livre et qu'on voit le film et qu'on connaît donc forcément la fin eh bien on est
ça
quand
fonctionne.
Même tenu en haleine.
Franchement ce qui est... moi je suis toujours déçue par les adaptations des livres. À chaque fois que je lis un livre que j'adore et que je vais au cinéma, je suis déçue. Là apparemment les gens sont plutôt assez contents de l'adaptation qui en a été faite.
Mais parce que justement, on a lu le livre et d'abord on attend de voir comment ça va être amené. Et puis comme vous l'avez expliqué, il y a quand même des choses qui ont été rajoutées sur le personnage, sur ses angoisses, sur ses déchirements.
On n'explique pas en fait pourquoi elle est comme ça. On l'explique beaucoup moins que dans le livre qui lui le racontait énormément. Nous, on n'avait pas cet espace-là. Donc j'essaie moi par mon interprétation d'ouvrir quelques petites portes, mais c'est vrai que c'est une espèce de mystère insondable quand même cette femme, en même temps qu'elle est assez touchante à certains moments. Elle nous... En fait c'est ce que j'aime beaucoup moi dans le film, c'est que ça allie à la fois une espèce de fable sociale. Est vraiment un thriller du genre, mais c'est un thriller un peu psychologique, ce que moi je préfère.
Oui, et puis il y a toute une réflexion aussi à avoir, on sait qu'il va y avoir un problème, on le sait dès le début du film, on le sait si on a lu le livre, on sait que c'est à partir d'un fait divers, donc généralement les faits divers c'est rarement des histoires drôles, mais il n'y a pas de jugement réellement fait sur est-ce que c'est le comportement des parents, qui étaient plus d'ailleurs des patrons que des parents dans ce comportement-là, est-ce que c'est la folie de cette nounou ou la déception de cette nounou, on ne sait pas trop. Il n'y a pas de jugement, en tout cas, clairement donné.
Non, Et heureusement, en même temps que le comportement de la nounou est vraiment impardonnable. Enfin, je veux dire, c'est totalement répréhensible l'attitude qu'elle a avec les enfants, mais ça c'est comme si c'était le c'est ce qui est atroce, c'est que c'est comme si c'était le produit de notre société, c'est-à-dire une femme d'une grande détresse, d'une grande solitude,
seule,
et seule absolument, personne pour la contredire, personne pour lui dire tu ne peux pas faire ça, ça n'est pas possible, et du coup et avec des attachements, des une névrose du lien qui est tellement colossale que les choses sont pas rangées à la bonne place. Mais c'est bien parce que c'est aussi un film où on aime se faire peur, c'est-à-dire que c'est cauchemardesque. T'es un peu comme l'enfant dans le film, c'est-à-dire qu'elle aime que sa nounou lui fasse peur et ça lui fait réellement peur et en même temps elle aime ça quand même.
Non, mais comme
moi j'aime
fait...
cette nature de
comme on fait boue, comme on peut faire boue à un enfant pour que qui pendant deux secondes comme ça elle retient sa respiration et après se met à rire comme pour désacraliser ou évacuer la peur qu'il vient de
mais
vivre.
Mais parce qu'en fait cette nounou, elle, j'ai l'impression que c'est ce que je voulais faire, j'ai l'impression que j'ai à peu près réussi. Elle vient un peu te prendre par la main. Ouais. C'est-à-dire que tu l'aimes bien quand même, tu vois bien que c'est la nounou idéale, et puis en même temps, elle vrille un peu, mais tu te dis, elle peut vriller, mais non, elle revient bien et tout ça. Mais tu sens que non, le.
Mais
voilà,
il
y a une.
Ce que vous réussissez, Karine Viard, dans le film, c'est que quand vous. Souriez, on a envie de vous sourire, on a envie d'être.
Elle est formidable avec les gosses.
Calin avec
elle
vous.
Joue avec et eux puis, des heures durant.
Et dès l'instant où vous fermez votre regard, mais
c'est glaçant.
Tellement peur.
Il y a cette scène justement où vous jouez avec la petite et vous vous transformez en chat ou en tigre, qui est très très effrayante.
Ouais, oui,
là,
oui.
Là, il y a une bascule
oui.
juste sur une scène.
Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est chouette parce que évidemment de jouer avec les enfants. C'est de l'impro, hein. Mmh. Cette scène-là, par exemple, qui est une scène très forte et que moi j'aime beaucoup, c'est vraiment même pas une ligne de scénario. Et en fait, comme j'ai improvisé avec les gosses et qu'il y a le bébé qui me regarde comme ça, qui est pas effrayé, qui se dit juste, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est folle, et que la petite est très excitée, mais en même temps qu'elle a très peur. Du coup, j'en ai fait, et c'est devenu une scène assez fondatrice du film. Parce que c'est vrai qu'avec les bébés, on peut tourner qu'une demi-heure par jour. Donc la demi-heure où on peut tourner avec eux, il faut vraiment être très présent,
efficace.
Il faut être très incarné. Et puis tourner avec des enfants, ça oblige l'acteur à être très très incarné, hein. Sinon on a l'impression que tu joues comme une patate. Hein. Tellement ils sont présents, tellement ils sont vrais.
Douce avec Réhab Méal, Noël Renaud, Assia Da Silva, Antoine Reinhardt, Leïla Bekti et donc Karine Viard qui est notre invitée jusqu'à midi et demi. Karine, maintenant vous avez et des questions et même les réponses, on n'a plus rien à faire, c'est Tom Villa qui s'occupe de tout.
Karine Viard, bienvenue dans la bande originale. Vous connaissez Nagui ?
C'est un ami d'enfance, en fait.
Ah, c'est formidable. Et vous connaissez le reste de la bande ?
Ils sont toujours un peu mal polis.
Oui, vous les connaissez bien. Mais nous aussi, comme vous, nous sommes amis avec Nagui.
Que vous soyez un ami du patron ne vous donne aucun talent particulier ?
Non, bien sûr. En tout cas, sachez que je suis pas pistonné, que j'ai été engagé pour mes talents de chroniqueur. Vous savez ce que j'ai dû faire pour que Nagui me remarque ?
Porter des jupes très courtes.
Ah oui, vous êtes au courant. Voilà. Karine Viard, en tout cas, qu'est-ce qu'il y a ? Je vous sens un petit peu dur.
Comme j'ai été naïve et généreuse, je suis beaucoup trop gentille.
Ouais, mais du coup, ce matin, vous êtes...
Je suis mais odieuse, rien ne peut me racheter.
Bon, bah, c'est pas grave, je continuerai à trouver vos films formidables, que vous êtes une actrice formidable. Et puis, je suis vraiment impressionnée par le nombre de films que vous avez déjà fait. J'imagine que vous êtes déjà tout au point retraite. Hein, c'est...
J'ai 17-18 ans.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est sûr que pour vous, la retraite, c'est dans longtemps. Bon, après, tout ce qui est régime spéciaux, pénibilité du travail, ça concerne pas vraiment le métier d'acteur.
Parfois, on a 15 secondes pour se changer.
Ouais, mais pour Arturo Brachetti, attendre de changer 5 fois de costume. Donc, et puis, franchement, changer de costume, c'est pas franchement non plus difficile.
T'es intégralement nu devant 70 personnes.
Ah ok, d'accord. Oui, pour le coup, des scènes nues devant une équipe de cinéma, ok, je comprends. Là, il doit y avoir un côté un peu pénible, surtout quand on a pour partenaire...
L'acteur insupportable, qui a la tête comme ça, alors qu'il est petit comme ça, qui joue comme une patate.
Ouais, je comprends. Allez-y, balancez.
Et je ne dirai pas son nom.
Oh non, c'est trop tard. Ah non, au moins un indice.
C'est en tout cas quelqu'un qui a beaucoup d'autorité.
Ah bah c'est Nagui alors.
Il a
c'est...
une grande part de féminité.
Ah bah c'est Daniel alors, pardon. Sinon, pour revenir à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, comme quoi je serais là uniquement parce que je suis l'ami du patron, ça me fait de la peine. Voilà.
J'agis par impulsion et après je regrette.
Bon bah c'est pas grave. En tout cas, vous nous avez tous titillé autour de la table, mais vous êtes restée très respectueuse du public, vous n'avez rien dit. Bien joué le public.
Il va falloir tous prendre un bain, ça, un tout petit peu.
Ah, bon bah perdu. Bonne émission.
Merci
Daniela. La bande originale, la vie sur France Inter. Dans Chanson douce, Karine Viard, est-ce qu'il y a eu des scènes, vous disiez tout à l'heure, tournées avec des enfants, voire des bébés, c'est particulier parce qu'on a peu de prises et il faut être extraordinairement efficace immédiatement, mais est-ce qu'il y avait des scènes qui étaient plus dures presque psychologiquement pour vous à jouer?
Non, non, pas du tout. Moi, il n'y avait aucune scène difficile à tourner. Ce qui était plus compliqué, c'est que la petite fille, elle faisait des fois des refus d'obstacles. Donc, par exemple, je pense à la scène où elle doit, où on est dans le jardin où je l'ai perdue. Ouais. Je dois lui parler à l'oreille de façon horrible, comme ça, en lui disant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux partir? Tu veux que quelqu'un te vole? C'est ça, comme ça, je lui parle à l'oreille. Comme ça, c'est atroce, hein. C'est cauchemardesque. Donc ça, c'était pas tant ça. C'était qu'après, elle devait me mordre l'épaule et elle refusait de le faire. Mais c'est des trucs que tu pouvais discuter pendant 2-3 heures. Donc c'est assez angoissant parce que tu sais pas si tu vas y arriver. Tu
Alors,
sais
vous
pas
faites
si
quoi pour l'obtenir? Est-ce que vous mettez du caramel beurre salé sur
Non, mais il y avait des choses.
Un enfant n'est pas un chien. J'aimerais faire cette distinction. Ça marche avec les chiens.
Pas un chien.
Mais voilà. C'est un postulat de départ.
Après,
merci de me le rappeler.
Après, je sais pas.
C'est la conviction. C'est de la rassurer en lui disant, ça me fait
mais
pas
mal.
Je sais
pas. Il y avait des moments où elle bloquait sur des trucs, hein, parce que c'était pas tant ce que je lui disais à l'oreille, bizarrement. C'était plutôt qu'elle devait me mordre l'épaule. Alors, je sais pas.
Si elle vous aimait bien, c'est délicat aussi. De faire un geste comme
oui,
ça.
Oui, bien
violent,
sûr. Ouais. Puis, bon, voilà, c'est une petite fille de 6 ans, donc elle a ses logiques et tout ça. C'était, fallait pas la brusquer non plus. En même temps, du coup, elle prenait le pouvoir sur l'équipe et elle le savait. Donc, c'était compliqué aussi. Moi, une ou deux fois, j'en ai appelé au fait que ce soit un travail. Je l'appelais collègue, je dis excuse-moi, je suis actrice, t'es actrice. Là, ce que tu fais, moi, je me permettrai jamais. Tu fais attendre tout le monde. Viens, on le fait, toutes les deux, nanana. Et ça, en fait, elle comprenait. C'est-à-dire la responsabilité. De ce que ça signifiait, en fait, ça marchait pas mal.
Donc c'est pas une fausse légende quand on dit que tourner avec des enfants, c'est pas toujours...
C'est très compliqué. Ouais. Tourner avec des enfants, c'est très compliqué.
Et avec des poulpes aussi.
Et les bébés, c'est carrément... on tourne pas avec eux, sauf que là, les bébés, ils étaient incroyables et que j'ai réussi à lier avec eux un rapport assez fort,
en fait. Mais alors là, il y a un problème, parce qu'on sait bien aussi que les bébés comprennent tout ce que l'on dit. C'est pour ça qu'il faut arrêter les areux, gabusomeux quand on est dans la vie normale. Donc là, un bébé qui entend des horreurs.
Non, mais je vous rassure, les enfants ont été très protégés. D'abord, la petite fille, on ne lui a pas raconté le film. On lui a raconté une partie du film, mais pas tout le film.
D'accord.
Donc elle, voilà, elle dit, voilà, Karine, elle joue ta nounou, des fois elle est très sympa, des fois elle est très bizarre, tu joues avec ça. Et les bébés, voilà, je les mâche, je leur fais des bisous.
Ils n'entendent pas les,
Ben non, heureusement.
Ce qui est dit, non, non, mais
mais les enfants ont été très protégés, sinon la DAS nous aurait jamais donné la possibilité de faire le film. Ah, non.
Au-delà d'être un thriller, est-ce que vous pensez que des parents, sortiront de la salle de cinéma avec un autre regard sur leur comportement et éventuellement la manière de choisir les nounous?
Bah, je sais pas, je sais déjà pas s'ils viendront.
Non.
Bon, c'est quand même vraiment... Je sais pas.
Parce qu'il y a une génération de parents un peu démissionnaires qui confient justement l'éducation de leur enfant aux nounous et qui sont de moins en moins présents. Ça arrive peut-être dans certains milieux, mais
démissionnaires ou très très investis dans leur boulot. C'est voilà.
Et puis là, le démissionnaire vis-à-vis des enfants.
T'as aussi le choix de dire je vais consacrer la plus grande partie de mon emploi du temps à mon travail, à ma carrière, et j'ai une nounou qui va s'en occuper. Et qui s'en occupe très bien, donc
avec une nounou comme ça, oui, tu te dis.
Mais je sais pas, j'ai pas tellement de point de vue là-dessus. Moi, je sais qu'en tant que mère, j'avais besoin de passer beaucoup de temps avec mes enfants, mais aussi parce que mon enfance avait été telle que j'avais aussi besoin de passer du temps avec mes enfants parce que j'avais une espèce de truc au-dessus qui était que je pouvais à tout moment abandonner mes enfants. Je sais pas comment dire. Donc je ne cessais de rattraper ça par culpabilité, ce qui est pas terrible non plus.
Mais votre disponibilité...
Donc à la limite, des parents qui sont très à l'aise, qui aiment leur carrière, qui confient leurs enfants à des nounous et qui passent tout le week-end avec eux. Pourquoi pas? J'ai pas de jugement, moi, là-dessus. Chacun fait comme il peut. Et parfois, l'intensité, par exemple, que moi, j'ai eue avec mes enfants, je suis pas sûre qu'elle soit beaucoup mieux que finalement des parents beaucoup plus à l'aise et beaucoup moins coupables que ce que je ne fus.
Et l'intensité de votre carrière professionnelle vous a amené justement à confier pendant plusieurs semaines d'affilée parce que vous partiez en tournage, que vous n'étiez pas
non,
à
mais
la
jamais.
Maison?
Mais jamais, je sais même pas, je me suis mise la rate au courbouillon justement pour ne jamais me retrouver dans cette situation. D'abord, j'avais le père de mes filles qui était à la présent. Maison. On essayait de faire en sorte d'eux. Et puis si même je devais partir à l'étranger ou un peu loin, le vendredi soir, je montais dans un avion, dans un train, quel que soit le nombre d'heures que je vais faire pour être là au réveil. Enfin, non, moi je me suis imposé énormément de trucs. J'ai été très présente. D'ailleurs, je suis allée un jour avec mes filles chez un psy, et les psys ont, bien sûr, votre maman n'était pas assez présente, et les deux ont fait si, très très présente. Très présente, justement.
Les idées préconçues.
Ils ont dit, ah d'accord, c'est pas ça le truc.
Lucie Borloto réalise ce film Chanson douce avec Karine Viard, sorti demain au cinéma. Quel que soit votre état civil, marié, avec enfant, sans enfant, attendant des enfants, étant nounou, pas nounou, peu importe, vous ne sortirez pas exactement constitué de la même façon après le film que lorsque vous êtes rentré, mais je pense qu'on en sort grandi. On reste pas indifférent.
Alors je voudrais quand même insister sur le fait qu'il y a quand même une forme, de mon point de vue, hein, peut-être je suis la seule à l'avoir, mais il y a quand même une jubilation à avoir un peu peur. C'est-à-dire que si on dit c'est un film, c'est comme La main sur le berceau, tous ces films-là,
c'est vraiment
des
films. Sauf que là, on sait que c'est une histoire vraie.
Oui, mais c'est une histoire vraie, mais qui est quand même c'est parti d'une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Mais bon, tout est vrai. Enfin, je veux dire, tout peut être vrai, même ce qu'on invente.
Non,
et
mais
tout ça.
Oui, c'est la fameuse phrase de Boris Vian. Cette histoire est vraie puisque c'est moi qui l'ai inventée.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce soit vrai ou pas, là, il y avait tout le temps des films en disant tiré d'une histoire vraie, comme si ça donnait une caution supplémentaire. On s'en fout en fait. Ouais, c'est ça.
Mais moi, je trouve ça intéressant de voir comment avoir peur. Moi, j'adore l'idée d'avoir peur dans ces circonstances. L'idée aussi de voir à quel moment ce personnage peut vriller, et surtout moi j'aime bien savoir pourquoi, savoir d'où elle vient, pourquoi elle réagit comme
son
ça,
parcours,
d'imaginer
sa psychologie.
Voilà, d'imaginer
par
sa
exemple
vie.
On ne sait pas pourquoi elle est seule, c'est-à-dire ce mari qui n'est plus là, on se pose aussi la question de pourquoi.
Ouais, bien sûr,
il n'est
plus bien là. Sûr. Bah moi,
regarde là, elle m'a fait son regard inquiétant.
Ouais,
là.
Voilà.
Même
ouais,
là, bien sûr, mais elle fait vraiment deux
mais
secondes.
Je sais pas pourquoi.
non, c'est sûr. Moi, j'ai dû me raconter tout ça. Hein. J'ai dû m'expliquer tous ces trucs-là.
Chanson douce. Donc demain au cinéma, il est très très doux ce garçon. Voici Jérémy Crépine.
Ah bonjour la bande et bonjour Karine Viard. Je précise pour ceux qui ne le savent pas, c'est Karine Viard sans eux. Voilà, sinon ça fait Karine Viard. Vous venez pour la promotion du film Chanson douce, à ne pas confondre avec Sanson douche. C'est pas du tout la même chose. Chanson douce, ça fait une chanson douce que me chantait ma maman. Alors que Sanson douche, c'est ça.
Qu'elle soit chaude ou froide, je n'aime pas l'eau.
Oui, c'est très différent. Très différent. À propos de voix dégueulasse, à la maison, j'ai un acouphène avec des bras et des pieds, ce que le commun des mortels appelle bébé, et j'ai pu constater que la plupart des comptines pour enfants sont horribles.
Ouais,
quand
j'ai
horrible, non, c'est vrai, c'est horrible. C'est à côté, vrai. Les chaussures de Nagui paraissent métables. Prenons, par exemple, la chanson de l'Alouette, et puisqu'on est en présence d'enfoirés, chantons-la ensemble.
Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête. Et la tête, alouette, alouette.
Voilà, vous voyez, et ça continue avec le bec, le cou, les ailes. Mais pourquoi s'en prendre à ce volatile qui plus est gentil? C'est dit au début de la chanson, gentille alouette. La personne qui a écrit ça pour un enfant. Bah alors, la personne qui a écrit ça pour un enfant au milieu du 19e siècle est psychopathe. Je soupçonne Daniel qui a mis quelque chose dans mon verre. Qui peut dire... Oh, gentille alouette, viens, et paf, je plume la tête, moi. Et le bec, qui peut plumer un bec?
Ah oui, c'est vrai.
Plumer un bec, c'est comme épiler un ongle ou écailler un os, ou le pull de monsieur, c'est insensé. Qu'en est-il de pomme d'api? La pomme, c'est le cidre, c'est le calva, donc je laisse le soin à Renaud de vous la chanter. Pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis rouge, pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis gris, cache tes mains derrière ton dos, je te donne un coup de marteau. Vous voyez, là, niveau méthode éducative, on est loin du Montessori. On est plus dans qu'il ou tout. La souris verte, allez, la souris verte, comptine certainement écrite par une personne qui devra se déplacer en bus quand toutes les voitures seront équipées d'éthylotest anti-démarrage. C'est vrai, si un jour je vois une souris verte, que je la trempe dans l'eau,
Donc que tu l'attrapes par la queue déjà.
Déjà, par laquelle? Si c'est une souris, ça dépend. Mais si je la trempe dans l'eau, dans l'huile, et que ça vient un escargot chaud,
tout chaud.
Voilà, vous allez sûrement me dire, ah, toi, t'as bu dans le verre de Leïla. Je continue.
Merci, toujours pareil.
Frère Jacques, dormez-vous. Ben, les enfants, je vous en supplie, laissez les prêtres dormir. L'empereur, sa femme, arrêtez de mettre des accents. L'empereur, sa femme et le petit prince, on est en 2019 quand même, peuvent téléphoner.
Sont venus chez moi pour me serrer la pince.
Merci Nagui. Et puis, non, mais pardon, mais si tu viens chez quelqu'un tous les matins pendant une semaine et qu'il t'ouvre pas, il n'y a pas 10 000 possibilités. Soit il est là, soit il est pas là. Enfin, soit il est là mais il veut pas t'ouvrir, soit il est allongé sur le sol de la cuisine depuis lundi matin avec le visage à moitié bouffé par ses chats. Voilà, dans les trois cas, ce sert à rien de toquer. Le problème des chansons pour enfants, c'est que c'est du tout pour la rime. La cohérence, on s'en balance. Un peu comme dans les blockbusters américains. Un petit cochon pendu au plafond. Tirez-lui le nez, il donnera du lait. Tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Combien en voulez-vous? Ben oui, bien sûr. Un petit cochon pendu au plafond. Petite chanson sur le bondage.
Ça sort quand? J'adore ce
film. Ça fait peur un peu.
Non, mais en plus, par exemple, comment on plante les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec le coude ou avec le nez même. Pardon, mais si à part ton jardinier, c'est Philippe Froison, c'est juste une immense perte de temps. Restons dans le jardinage. Je l'adore. Et terminons avec Gentil Coquelicot, interprété par la douce Jane Birkin. J'ai descendu dans mon jardin. J'ai descendu dans mon jardin. Oui, j'ai choisi Jane parce que être étrangère, c'est la seule excuse valable pour faire une faute de français aussi énorme que le foie de Gainsbourg dans ces derniers jours. En tout cas, je sais pas quelle planète on va laisser à nos gosses. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce qu'on leur chante, s'ils atteignent la majorité, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup.
Merci, la bande originale.
Il y en a une autre qui est très 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 choquante. Prête-moi ta plume.
Ah oui. Au clair de la lune, oui, on se voit.
Il fourre le curé.
Mais au clair de la lune, j'avais jamais entendu au clair de la lune comme étant une chanson triviarde.
Triviarde pour moi. Oui.
Non, on avait dit sans. Et le Karine et le Viard. Comme ça, il n'y a pas deux, c'est clair.
Bon pour les omelettes.
On parle des chansons aussi qui sont, qui font peur aux enfants. Les contes font peur aux enfants. Le petit chaperon rouge.
Ah,
le
mais bien sûr, mais c'est,
ça.
C'est du même ordre. C'est-à-dire qu'on on exulte, on aime avoir peur. C'est, voilà, confronter le cauchemar te permet de comment dire, de le domestiquer un peu, quoi.
Et c'est ce dont vous avez eu envie pour l'adaptation de ce film. Vous aviez envie de faire peur, vous aviez envie d'aller dans ce genre de rôle-là.
Ah ouais.
Elle dit ça avec douceur.
Ah vraiment. Oui, parce que j'avais jamais fait ça. D'abord, ça m'intéresse beaucoup. Parce
jamais. Il y a aucun rôle où vous étiez flippante.
Non, pas du tout. Non, aucun. Mais c'est aussi que c'est une espèce de peur à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que le monstre est dans la maison. C'est pas. Je sais pas comment ça s'appelle les films de monstres et tout ça, les effets spéciaux, ça n'a rien à voir. C'est le monstre dans la maison, c'est la petite chanson. Tu vois le gosse, tout va bien. Et puis d'un seul coup, tu fais, ouh, il y a une ambiance très étrange. Voilà, c'est ça.
Tout exactement. On sait pas quand la folie se déclenche, quoi.
Ouais, c'est ça. Non,
c'est quand, ça, Stephen musique... King, avec le, avec le clown, ça. Comme ça, ça, très sympathique. Et puis tout d'un coup, il a
exactement.
L'écran, quoi.
Exactement.
Mais alors, pardon, Karine Viard, après les chatouilles, chanson douce.
Il y en a d'autres à venir.
Il paraît que vous avez raté le casting de Grégory, le petit Grégory sur la tête.
Non, mais c'est chaque fois, le danger est dans le cercle familial.
Ah ben, c'est là où moi, personnellement, ça m'interroge le plus. C'est-à-dire, quand le danger est ailleurs, c'est une épidémie de trucs, ok, t'es dans un film de genre. Mais quand le danger est dans la famille, que tu sais pas qui c'est, quoi, qu'est-ce qui se passe, ou par
c'est
où ça va arriver, c'est ça
que j'aime bien. C'est ce que disent les enfants de Nagui très souvent. On sait que le danger est là, mais...
Je te remercie de les saluer
moi,
pour
c'est
moi.
C'est ça qui m'intéresse, mais... parce qu'il y a de la psychologie, il y a de l'affect et tout ça, j'aime bien.
Non, mais dans les chatouilles, en plus, malheureusement, c'est la majorité des cas d'agression sexuelle sur les enfants, c'est toujours le cercle familial,
intime,
les proches.
Oui,
et
tout à fait.
Toujours, parce qu'on s'en méfie pas, parce que justement, on a donné sa confiance aux autres. C'est aussi le cas dans Chanson douce. On donne sa confiance à une nounou.
Oui, tout à fait.
Oui, on lui fait confiance, mais c'est une offrande que l'on fait. On confie ce qu'il y a de plus cher. Ce que l'on a de plus cher, c'est nos enfants.
Oui, mais le lien nounou-patron, il est assez complexe.
Mais vous revenez beaucoup sur ce rapport-là.
Oui, parce que c'est un lien complexe. C'est-à-dire que si t'es un patron avec des limites assez claires, où tu dis tu fais ce travail, je te respecte pour ce travail, je te paye pour ce travail et je te traite bien, mais c'est un travail et voilà la limite, je pense que c'est plus facile en face de savoir que effectivement c'est un travail et que si à un moment donné les patrons dépassent les bornes, tu peux dire pardon, vous m'avez pris pour un travail pour tant d'heures, mais ça fait plusieurs semaines que je dépasse les trucs, donc qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est plus quand t'as un cadre, tu trouves plus de liberté. Le truc compliqué, c'est qu'il y a pas de cadre.
Elle arrive plus tôt dans la cuisine, de plus en plus tôt dans la cuisine, ce qui est extrêmement flippant.
Ouais.
Et en même temps, on imagine bien que ça gêne Leïla Bekti, enfin que ça gêne le couple en général, et on se dit waouh, elle est au moins elle est à l'heure, elle a voulu éviter les bouchons, elle est de
plus
en...
et en même temps, ce qui est compliqué dans cette situation, c'est qu'ils n'osent pas, les patrons n'osent pas lui dire. N'osent pas lui dire, il y a quelque chose qui va pas, c'est que nous, il faut aussi qu'on puisse être seul chez nous, et que vous ne soyez pas toujours là.
Et il y a une crise au sein du couple aussi qui arrive avec elle qui dit, elle fait très bien son travail, lui qui dit, mais là...
Elle commence à m'angoisser, je peux plus la supporter en fait, j'aime pas cette présence.
D'autant plus que la nounou, elle est en charge aussi en partie de l'éducation, et c'est là, je trouve, la difficulté, c'est quelles sont les valeurs du couple, des parents, et quelles sont les valeurs transmises par la nounou. Ne pas gaspiller par exemple la nourriture, ne pas consommer un yaourt quand la date est dépassé, ça veut dire qu'à un moment on est obligé en tant que parent, j'imagine, de déléguer un certain nombre de choses, et c'est
bien
là
sûr,
qu'elle prend une
sûr.
Place dingue.
Oui, absolument. Et puis même, elle range les affaires, elle a accès aux sous-vêtements, enfin je veux dire, elle sait quand ils font l'amour, quand ils font pas l'amour et tout, c'est un truc.
Mais... On va en parler dans quelques instants avec Caroline Aibos, mais d'abord je voudrais évoquer la musique que vous écoutez, que vous aimez, Karine Viard. On va commencer votre bande originale en partant dans les années, si je les retrouve, 80.
Ça reste très long.
C'est génial ce slow. Plus un slow qui s'appelle I'm Not In Love. C'était les premiers slows de vos booms, ça ?
En fait, c'est pas 80, c'est plus années 75, 76, 78. C'est ma sœur qui était partie aux États-Unis et qui était revenue avec ce disque. Et j'avais interdiction de le toucher, et dès qu'elle partait à l'école, je le mettais comme ça. Et ce slow m'a fait tellement rêver, quoi. Tellement.
On évoquait tout à l'heure le théâtre au Club Med, l'école des femmes. J'imagine, là, vous parliez d'un atelier théâtre dans une interview. J'imagine que ça correspond à peu près à la même période. Et à la découverte du plaisir sur scène, de se dire, tiens, il y a peut-être un endroit qui me convient plus que d'autres.
Ah oui, c'est sûr, oui, c'est certain.
Et ça, c'est ce qui a déclenché la vocation vraiment à ce moment-là, ou c'est passager et c'est après rétrospectivement qu'on le revoit comme ça?
Je crois qu'être actrice, c'était ma destinée. C'est étrange, mais je le pense absolument. C'est-à-dire que, enfant, moi, j'ai toujours eu envie d'être actrice sans savoir exactement ce que ça voulait dire. Mais je me disais, je veux faire ça, ce que je voyais faire à la télé. Je veux faire ça, mais c'était un peu confus. Après, je suis allée au Club Med, effectivement, j'ai pu jouer cette pièce. Et après, une fois que je suis sortie, que j'ai fait ça, je dis, c'est ça que ma vie, c'est ça.
Comment pourriez-vous définir le plaisir de jouer ?
Alors, c'est pas mal. alors, comment je définirais ça ? En fait, c'est une façon de s'oublier soi. Et c'est vraiment d'être dans le jeu, mais comme pour moi, tel que j'envisage, c'est comme quand on est enfant. Alors on dirait que je ferais ça. Alors souvent je vois que les enfants, eux, ils disent on dirait que je ferais ça, mais ils font que le dire, ils le jouent pas.
Ouais.
Moi je dis on dirait que, et je le joue. Donc ça me permet d'être quelqu'un d'autre, ça me permet de réfléchir, de fouiller sur les liens, les relations. C'est finalement ce qui m'intéresse le plus dans la vie, je crois. Et j'échappe à ma vie, en fait.
Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous observez les réactions, les comportements de certaines personnes?
Absolument.
Pour aller chercher des émotions?
Mais je
ne
fais pas du tout de façon perverse.
Oui,
non. C'est une seconde nature chez moi.
Chercher le mécanisme d'une émotion.
C'est une seconde nature chez moi. Ouais, absolument. Et je suis très, très... Comment dire, je vois tout, en fait. Je vois tout, les moindres trucs, les moindres quoi, quand quelqu'un manque, quand quelqu'un est gêné.
Vous voulez dire que là, on est foutu.
Non, pas du tout, pas là, mais oui, ça me parvient, en fait.
En 1990, vous écoutiez...
story, MC Kid Frost. You saw it hit that my throne, it's the big boss. My quid is loaded, it's full of violence. I put it in your face and you won't say nada.
Kid Frost, c'est la raza. Là, vous, avec cette musique, vous voyez quelles images?
Alors, début des années 90, je commence à devenir actrice, je fais mon premier film avec Xavier Duringer, je rencontre l'homme qui va devenir le père de mes enfants. C'est une période assez heureuse, assez joyeuse, où ma vie se construit après avoir été très déconstruite. Elle se construit à ce moment-là.
Avec des repères.
Voilà. Et j'écoute beaucoup Kid Frost, Massive Attack, tout ça. Je découvre tout ça. Après avoir eu accès, en gros, qu'à la variété française, avoir eu peu de culture musicale.
Et c'est aussi l'époque de Tati Daniel, suivra Délicate et Saine. Donc deux rencontres aussi essentielles pour une comédienne, parce que finalement on peut être comédienne, mais tant qu'on n'a peut-être pas rencontré le réalisateur qui vous regarde et qui voit en vous une comédienne qui va pouvoir grandir, je crois que lui c'est Étienne Chatillès pour vous.
Alors Étienne Chatillès, c'est celui qui m'a donné ma chance en fait. Ouais. C'est celui grâce auquel je suis devenue actrice, que tu te dis toujours... Il faut bien que ça démarre en fait. Il y en a qui démarrent jamais ou qui démarrent, qui font tout le temps des faux départs. Lui m'a vraiment permis d'avoir un vrai départ. Ça, je lui en sais gré. Voilà, ça c'était en 89. Après a suivi effectivement Délicatessen, deux films qu'on comptait. Oui. Et du coup, je suis arrivée sur la planète actrice avec deux films, deux rôles secondaires, mais comme ça a marché, j'ai tout de suite existé comme actrice.
Étienne Chatillès, Jean-Pierre Jeunet, ça va.
Oui, voilà, c'est ça. J'ai tout de suite existé comme actrice, alors que j'aurais pu être dans les limbes pendant encore des années.
Caroline, bienvenue à ce micro. Caroline Ibos, vous êtes sociologue, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Rennes 2, auteure du livre « Qui gardera nos enfants ?»« Les nounous et les mères » aux éditions Flammarion. Tout est dit, c'est le dossier est entre vos mains. Qui sont d'ailleurs majoritairement, comment définir une nounou? Est-ce qu'il y a un profil type en psychologie ou en comment dirais-je, en situation personnelle pour être nounou?
Alors en psychologie, je suis pas psychologue, donc
non, mais enfin, voilà, vous avez étudié les nounous, donc est-ce qu'elles ont toutes le même profil?
Alors j'ai étudié les nounous, j'ai étudié des relations de domesticité. Ouais. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les relations de pouvoir dans la société.
Ce que disait Karine Viard, alors le rapport patron-employé.
De manière même un petit peu plus large, les relations plus systémiques.
D'accord.
Donc, les relations entre les différentes classes sociales, entre les genres, et aussi entre ce qu'on appelle en sociologie les races, c'est-à-dire non pas les races telles qu'elles existeraient biologiquement, mais la production de l'altérité.
Qui, on sait, n'existe pas biologiquement.
Qui n'existe pas, mais la production de l'altérité par la race. Et d'ailleurs, il y a une chose intéressante dans le film, c'est que cette relation de race, elle est retournée.
L'inversée,
c'est-à-dire, elle est inversée. C'est-à-dire que, par exemple, dans le fait divers auquel le film se réfère...
Je suis désolé, race à chaque phrase, je vais avoir du mal. Donc parlons d'origine, parlons de...
Non, oui, si vous... Enfin, altérisation.
Nous avons la chance d'être une race, qui est la race humaine.
Oui, mais ça ne veut pas dire que
on peut avoir des origines différentes.
Non, ça n'est pas du tout lié à l'origine.
C'est lié
à
quoi ?
La production de la race, c'est une production de la différence, comme si c'était une différence naturelle. Par exemple, les Irlandais, pendant toute la période de la colonisation, sont construits comme une race. Donc, c'est même pas la couleur de peau. C'est la construction.
Je parlais pas de la couleur de peau, je parlais d'origine aussi.
Oui, mais c'est pas l'origine.
On va passer du temps avant de venir pote. Hein.
Je vais juste revenir à ce que je disais, dans le fait divers qui a inspiré le roman de Leïla Slimani, et bien précisément, les patrons sont des gens riches et blancs qui vivent dans l'Upper East Side, et l'employé est une Dominicaine qui est donc racisée. Voilà, donc quand je parle de race, c'est avec des racisations, avec un processus de production de l'infériorisation par l'origine, si vous voulez.
Là, c'est l'inverse. La mère du foyer, en tout cas, Leïla Bekti, Karine Viard pour employée.
Voilà, alors vous me demandiez...
Alors qu'au parc, on voit que Karine Viard, son personnage, est la seule blanche au parc.
Absolument. Voilà. Donc vous me parliez effectivement de profil des nounous. Eh bien, le profil des nounous, c'est que ce sont des personnes racisées et que c'est très important dans ce rapport de pouvoir et de domination. Alors effectivement, c'est la seule blanche dans le mais c'est aussi la seule blanche. Les quelques images que l'on voit du lieu où elle habite, C'est aussi dans son quartier. Ouais, ouais. Dans son quartier, on voit des enfants qui sont des enfants noirs. Donc, les nounous aujourd'hui, ce sont très majoritairement soit des femmes migrantes, soit des femmes qui sont issues de l'immigration, qui sont donc dans des situations de vulnérabilité politique. Ce n'est pas le cas de la nounou de Chanson Douce. Ce sont très souvent des femmes sans papier.
Comment s'appelle déjà votre personnage?
Louise. Donc il y a quelque chose qui est déjoué, en fait, par rapport. C'est pour ça que j'ai bien aimé quand vous disiez c'est une fable. C'est une fable. Par rapport à la réalité, il y a quelque chose qui est déjoué. Et on peut dire que la question de la classe sociale aussi, elle est déjouée dans le film.
Et l'âge aussi. Il y a un décalage puisqu'elle est plus âgée que la maman.
Oui, mais ça, il y a des nounous de tous les âges, en fait.
Mais c'est vrai que ça alimente la culpabilité du rôle que joue Laïla Bekti vis-à-vis d'elle.
Et son autorité aussi.
Absolument. Ouais. Et son autorité, c'est-à-dire tu sens très clairement chez la nounou que j'interprète qu'il y a eu déclassement. Tu sais pas, il y a eu rupture, il y a eu déclassement, il y a eu dégringolade. Où, mais... Parce que tu vois bien qu'elle parle bien, qu'elle a des bonnes manières, qu'elle a une grande rigidité morale. Et donc tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à cette fracture, en fait?
Et puis son âge est intéressant vis-à-vis de la belle-mère aussi. Enfin, c'est qu'elle se retrouve.
Oui, non.
Elle se retrouve aussi dans une compétition avec la figure, une autre figure d'autorité du foyer qui est la belle-mère.
Cette capacité, t'as vu comment en deux secondes elle change de visage? Comment ça fait peur? Mais vous jouez à ça dans la vie tous les jours, si vous...
Non, en
fait, à la maison?
Je suis toute rouge.
Donc revenons à la situation que vous avez pu observer sur justement le rapport entre les nounous et les mamans. D'ailleurs, généralement, est-ce que ce sont les mamans qui choisissent les nounous, ou est-ce que c'est le couple qui choisit la nounou?
Alors là, c'est aussi très intéressant parce qu'effectivement, là, on arrive dans les rapports de genre. Donc, le film, pour ça, il est, y a des choses extrêmement justes.
Je peux pas vous laisser dire qu'il y a des genres.
Non, je vous en prie. Allez-y, Caroline, allez-y.
Il est extrêmement juste dans la mesure où on voit bien que c'est une histoire qui se situe qui se passe principalement entre femmes. Ouais. La relation, la charge mentale, elle est du côté de Myriam, donc du personnage
de Laïla Bekti.
De Laïla Bekti. Et il y a cette phrase très intéressante quand il s'agit de recruter la nounou, où le mari ou le compagnon de Laïla Bekti lui dit tout son ton salaire va y passer. Donc c'est comme si c'était le salaire nécessairement de la femme qui allait payer la nounou. Alors que on pourrait dire
elle te remplace, donc c'est toi qui payes, c'est ça.
Donc il y a une sorte de rapport de genre, mais je trouve que dans le film une scène très intéressante, et là j'aimerais bien peut-être que vous nous disiez un mot dessus, c'est la scène un peu érotique qui se passe dans la mer entre le patron et la nounou. Parce que là, dans les rapports, encore une fois, sociaux, ce qui se passe en général, c'est plutôt une exploitation sexuelle des domestiques.
Oui.
Donc, c'est plutôt des scènes, c'est du troussage domestique, pour reprendre la célèbre phrase de Jean-François Kahn. Or là, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. Là, j'ai l'impression que c'est elle.
Absolument.
C'est elle qui étreint, donc qui impose une sorte de rapport érotique à son patron.
Absolument.
Et là encore, quelque chose de complètement déjoué. C'est-à-dire que tous les rapports sociaux tels qu'ils sont dans la réalité, dans ce film, ils sont déjoués, que ce soit sur le plan de l'origine ethnique, sur le plan de la classe sociale. Absolument. C'est déjoué aussi, parce que comme vous le dites, on sent un déclassement, et aussi sur le plan de la sexualité et du genre.
Absolument. Donc c'est du bien l'intelligence, non?
Il a fallu attendre 50 minutes pour avoir quelque chose d'intelligent avec quelqu'un de mal à l'entendre.
En fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est vraiment une composition de moi-même. Ça n'était pas dans l'écriture du scénario. Mais finalement, comme j'ai nourri ce personnage, que j'ai tourné autour, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait justifier à un moment donné cette haine qu'elle éprouve vis-à-vis de Myriam aussi, qui finalement est une patronne plutôt gentille, à part qu'elle lui dit « je vous interdis de donner des yaourts périmés à mes enfants », c'est pas non plus quelqu'un qui prend tellement qui prend tellement le pouvoir. Donc je me suis dit, mais au fond, est-ce que à un moment donné, qu'on la fasse rentrer comme ça dans cette famille, est-ce qu'à un moment donné, elle se dirait pas, mais elle ne mérite pas son mari? Est-ce qu'au fond, c'est pas plus moi qui mériterais son mari plutôt qu'elle?
Mais est-ce qu'elle ne le mérite pas aussi parce qu'elle n'est pas blanche? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette, la position qui est inversée?
Ça, c'est pas
que...
un truc que j'ai pris en compte.
Ouais.
C'est pas un truc
moi,
que j'ai pris en compte.
Ce qui m'est apparu, oui, c'est-à-dire qu'elle la respecte sans doute aussi moins parce que elle n'est pas à la place habituelle. C'est pas.
Alors, c'est marrant. J'ai vu plus l'âge.
J'ai vu un rapport de culpabilité lié sans doute à l'origine, effectivement, du personnage de Myriam, qui du coup est plus mal à l'aise pour donner des ordres à une femme plus âgée et blanche. Ouais,
alors que moi, j'ai vu l'origine du personnage de Leïla Bekhti comme sa difficulté à ne pas pouvoir donner d'ordre parce qu'elle n'a pas sans doute l'habitude d'avoir été servie, elle, dans sa vie par le passé.
Je voudrais juste, avant, parce qu'on n'a qu'une minute, pour préciser.
Mais Caroline est d'accord un peu avec moi, je crois.
Elle aime bien. Complètement.
Caroline.
Complètement.
Eh ben, ça tombe bien s'il y a bien quelqu'un qui prendra un verre avec ça sur toi. Juste Caroline. Non, blague à part. On parle beaucoup de, et là, c'est vrai que le problème vient de la nounou dans le film. Malheureusement, l'inverse aussi. Il y a des nounous qui sont totalement exploités, qui se retrouvent à faire des heures de ménage et des heures non rémunérées aussi. Est-ce qu'il y a une manière de défendre? Est-ce qu'il y a des syndicats?
Travailler plus pour gagner plus, hein.
Alors, je dirais que même dans le film, elle est exploitée. Même dans le film, elle est exploitée. C'est dit à la fin par le mari qui dit on ne lui paye pas toutes les heures qu'elle veut, elle va nous coller un procès.
Mmh. Donc, oui, mais enfin, ce sont des heures qu'elle vient faire et que les patrons ne réclament pas, parce qu'elle vient plutôt, ils sont en vacances.
Mais
ils ne lui
interdisent pas. Ouais, donc, ils acceptent qu'elle travaille sans être payée.
D'accord.
Donc,
ça
s'appelle de l'exploitation.
OK. Et donc, il y a des associations de défense des nounous,
Il y a un syndicat que je trouve intéressant, qui est un syndicat qui a été fondé par des nounous. Notamment par une nounou ivoirienne, franco-ivoirienne, qui est Sylvie Fofana. C'est un syndicat qui est affilié à l'UNSA et qui s'appelle le Syndicat National des Auxiliaires Parentales.
Parfait. Vers une société du CARE, une C-A-R-E, une politique de l'attention. C'est aux éditions Le Cavalier Bleu.
Cavalier Bleu.
C'est ça. Sorti en septembre dernier, que vous avez co-signé avec Aurélie Darman, Pascal Molinier et Patricia Paperman. Merci Caroline Nibos d'être venue à ce micro.
Merci à vous.
Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Au Japon, un hôtel a inventé la chambre à 1 euro.
Oui, 1 euro c'est peu, ça équivaut à 1 millième de seconde de la vie de Bernard Arnault. Alors comment cet hôtel peut-il proposer des chambres aussi peu chères? Eh bien c'est simple, le client doit juste accepter en retour d'être filmé H24, diffusé en live sur YouTube.
Ah.
Moi qui ai de très jolies fesses, j'ai très envie d'y aller.
C'est
honteux. Qu'est-ce qui t'arrive?
Avec Léna Kakobouzadine, Daniel Morin, Tom Mella, Jérémy Crédville, Tanguy,
je dégainerai pas,
Passuro et notre invité Karine Viard. Au cinéma, demain, Un dodo et vous aurez Chanson douce au cinéma, réalisé par Lucie Borloteau, avec Karine Viard qui est notre invitée jusqu'à 12h30, avec également Leïla Bekhti, son mari qui est interprété...
Antoine Reynard.
Voilà.
Super aussi.
T'as tout dit.
Ouais.
Et il me manque les enfants, pardon, Assia Da Silva, Naël Renaud et Réhab Méal. Non, alors...
Si je peux me permettre, Naël Renaud n'est pas un enfant.
Exactement.
c'est la belle-mère.
C'est Assia qui joue le rôle de l'enfant.
Exactement.
Ce film sort donc demain, l'histoire d'un couple qui ont deux enfants en bas âge et qui engage une nounou extraordinairement expérimentée, rigoureuse, organisée, Louise, jouée par Karine Viard, pour que Myriam puisse enfin reprendre le travail, puisqu'elle avait aussi sacrifié sa vie professionnelle et sa carrière à s'occuper à cette charge mentale qui n'est toujours pas rémunérée. D'ailleurs, être maman, s'occuper des enfants H24, c'est une véritable occupation et qui n'est pas rémunérée.
Ouais.
Et puis cette nounou dévouée, consciencieuse, est de plus en plus présente
dans
la vie du couple. Et elle est de plus en plus...
La perle rare. Hein,
elle est de plus en plus inquiétante. Quoi. Ouais. Au regard près, c'est ça votre force. Ouais. C'est que votre visage, il y a une espèce de morphing dans un même plan où on a envie de se jeter dans vos bras et deux secondes après d'appeler vite la police. Tellement vous pouvez faire
ce qu'on
peur.
Fait dans l'ordre inverse quand tu prends quelqu'un dans tes bras.
et ça doit être jouissif de jouer comme ça plusieurs personnages en un.
Ah, franchement, je vous dis, je crois que c'est le rôle. J'ai eu des rôles un peu marquants dans ma carrière,
clairement,
des rôles qui m'ont vraiment passionnée. Et celui-ci fait vraiment partie de mon top 3, quoi. D'abord parce que c'est un personnage extrêmement complexe, avec des couches comme ça successives. C'est un personnage assez vaste parce qu'effectivement, elle est à la fois très généreuse, très consciencieuse, mais excessivement rigide et quand même, elle est au bord de la folie, mais tu sais pas si c'est vraiment de la folie ou pas.
Elle tombe dans tous les excès, que ce soit dans les excès de propreté ou les excès de désordre, ouais. On le voit à la
elle
fin.
Elle est très border comme
voilà,
ça.
C'est ça.
Donc ça, c'est quand même très jouissif à jouer quand on est une actrice.
D'être excessive et d'être en même temps retenue, puisqu'on découvre ses excès
Oui, c'est de manipuler, d'une certaine façon, manipuler l'attention du spectateur en envoyant régulièrement des pistes et en surprenant toujours. C'est-à-dire, tu ne sais pas de quoi elle est capable. Oh oui. Et ça, cette qualité-là, en fait, c'est extrêmement jouissif parce que tu manipules, entre guillemets, je n'aime pas manipuler les gens dans la vie, hein, mais je veux dire, comme actrice, quand tu sens que tu possèdes ton instrument et que tu peux aller un peu à droite, un peu à gauche, et qu'en même temps, tu joues avec des enfants, donc ça t'oblige à avoir une qualité de présence. T'es vraiment dans le présent avec des enfants.
Quand on est acteur, on manipule les émotions quand même du public et des spectateurs.
Oui, tout à fait, absolument. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous échappent, il y a beaucoup de choses qui émanent de nous sans qu'on en soit tout à fait conscient. Donc il y avait comme ça une difficulté du rôle qui moi, m'excitait énormément.
Il faut aller chercher en soi aussi ces certaines émotions dans ces expériences. J'espère que ça n'a pas été le cas avec vos nounous, mais vous êtes maman, donc forcément, alors, il y a un moment où...
Non, je dirais pas ça. Ah. Moi, je vais pas chercher en moi, mais c'est le fruit de mon analyse, en fait. C'est-à-dire que j'analyse la situation, j'analyse qui est le personnage. Quand j'arrive sur un tournage, j'analyse ce qu'attend de moi le réalisateur, j'analyse où je suis, comment le film est tourné, etc. Et tout le fruit de cette analyse, en fait, me fait jouer d'une certaine façon. Mais ce qui est en jeu, c'est pas ce que je ressens moi. Ah, oh, je suis tellement comme le personnage. Ça n'entre jamais en
ligne de
compte.
C'est pas ce que je voulais dire. C'est d'aller chercher des émotions, des craintes, des phobies.
Forcément.
Peut-être.
Forcément. C'est-à-dire que l'autre jour, je sais plus, j'étais à une émission, ils m'ont dit, mais quand même, c'est de plus en plus facile pour vous, vous avez de plus en plus confiance en vous. Et je dis, bah, à la fois oui d'un certain côté et d'un autre, comme mon instrument de travail c'est moi, je vais chercher, j'essaie de comprendre, j'essaie d'ouvrir de plus en plus de portes à l'intérieur de moi et finalement en même temps que j'ai la maturité et la confiance, en même temps j'ai une plus grande fragilité parce que j'ouvre de plus en plus de portes en fait.
Et puis vous avez cette force, vous avez une lecture je trouve et c'est vos meilleurs rôles, c'est à chaque fois cela je pense, c'est la lecture sociale que vous avez parce que je pense que toutes les comédiennes ne peuvent pas exactement avoir la même que vous parce qu'il y a votre histoire, il y a ce que vous revendiquez, la façon dont vous vous positionnez aussi, et moi je trouve que c'est ce qui fait souvent la différence parce que on peut voir un comédien ou une comédienne comme quelqu'un qui a des outils, qui sait faire, qui sait susciter des émotions, mais
la sincérité qui arrive derrière.
Ouais, la différence, elle se joue là et elle est fine peut-être, mais elle est tellement perceptible.
Oui, c'est vrai. Mais moi, ce que j'aime dans ces personnages qui sont entre guillemets indéfendables, parce qu'elle est quand même assez indéfendable cette nounou, c'est qu'elle est aussi notre humanité et qu'on est bien obligé de la regarder et que dans notre société qui est quand même hyper violente, qui moleste vraiment les individus qui la composent, aussi bien les enfants que les ados, que les adultes, que les vieux,
femmes,
les seniors et tout ça, les femmes, les immigrés,
tout.
En fait, il y a de plus en plus de comportements qui se dévient. Mmh. Et c'est notre humanité. Et je pense que l'individu, de nature, la race de l'individu, c'est d'aider l'autre et d'être dans l'empathie. C'est-à-dire les bébés, quand il y en a un qui pleure, ils pleurent tous. C'est un caractère empathique qui nous appartient, qui appartient à notre humanité. T'as un bébé, tout le monde est à quatre pattes, t'en as un qui n'arrive pas, t'as les autres qui viennent l'aider pour qu'il fasse
pareil. C'est un réflexe naturel avant qu'il y ait les codes de la société.
Absolument.
Qui viennent changer ça.
Et je pense qu'on est très maltraité par la société parce qu'on nous fait croire que si toi t'as du boulot, ça m'empêche à moi d'en avoir. Ouais. On nous montre les uns contre les autres.
En même temps, la société, c'est nous qui l'avons faite aussi, de manière directe.
Absolument, mais donc tout ça fait que ça produit des individus comme cette nounou. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder toujours ces comportements déviants avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'empathie, en fait.
Chanson douce, c'est demain au cinéma, porté, il n'y a pas d'autre terme, par Karine Viard, qui est notre invitée. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, vous allez beaucoup à l'hôtel, on m'a dit.
Oui, pas par passion, hein, bien sûr, parce que personne n'a envie de dormir dans une pièce où, si ça se trouve, des inconnus se sont sodomisés la nuit précédente.
Oh, mais
non, je dors à l'hôtel dans le cadre de mes spectacles à travers la France, où des fans transissent, s'arrachent ma liquette en hurlant « On t'aime, mon gros loup !» Et ensuite, je me réveille et c'était un rêve. L'hôtel, c'est sordide, il n'y a même pas Netflix. Certains samedis soirs à minuit, je me retrouvais à regarder France 3. Si on m'avait dit à 14 ans que ça serait ça mon avenir, à 14 ans et un jour, je me serais coupé les veines avec la tranche d'un de mes posters de Samantha Fox, au nombre de 2700, que je cachais sous mon lit. Du coup, le lit culminait à 4,3 mètres du sol. Pour en descendre le matin, j'avais un piolet et une corde, c'est là que j'ai appris les descentes en rappel. Et depuis, Greta Thunberg et les ONG là qui font des fake news sur le climat, parce qu'il a toujours fait 42 degrés en mai à Dijon. Hein, on ne le sait pas, mais c'est à Dijon que sont nés le reggae et le chikungunya. Et ben, dans les hôtels, on vous fait la leçon. Dans la salle de bain, il y a un carton avec écrit « Vos serviettes plantent des arbres ». La première fois que j'ai lu ça, je me suis dit « Comment font-elles ? Enfin, les serviettes n'ont pas de bras. C'est leur point commun avec les mendiants bulgares. Même si elles en avaient, elles préféraient jouer à la console ou faire du jokari. » Puis j'ai compris le principe. Si vous voulez garder la même serviette de bain pour le lendemain, vous la laissez sur le portant et vous sauvez la planète, certes avec votre voisine qui trie ses ordures. Et si vous vous en fichez, vous la mettez dans la douche. Tous les jours, on vous la lave. Mais si vous croisez Artus Bertrand, il se rase la moustache et vous fourre les poils dans le gosier jusqu'à ce que vous creviez. Ensuite, il jette votre corps depuis son hélico au-dessus du Puy du Fou, où des aigles se partagent votre corps. Oui, l'hôtel est un lieu sordide, à faire passer un abattoir de porc dénoncé par L214 comme la maison de Nif Nif et Nouf Nouf. On vous donne une carte magnétique pour ouvrir la chambre. Eh ben, il suffit que vous approchiez la carte de votre portable ou de votre femme qui bouffe trop de sushis au thon bourré de mercure. Ben, elle se démagnétise. Vous êtes là comme un con devant la chambre 205. Et même si vous frappez à la chambre 204 en disant « Ouvrez-moi, je suis Nagui ». Ok, on vous ouvre, mais très vite la personne réalise que vous n'êtes pas Nagui. Moi, je l'ai fait 20 fois. Je criais « Jean-Luc, bloque-tu ces paroles ?» Et d'autres phrases symboliques de vous, Nagui, comme « Ah, ce Tanguy Pastureau, mais bordel, quel génie !» Eh ben, on m'a fermé la porte nez. Donc, il faut redescendre à la réception, faire remagnétiser la carte. Il y avait un système super avant, ça s'appelait la clé. Ça marchait nickel. Hein, c'est impossible de démagnétiser une clé. Ou alors que si vous revenez de la zone irradiée de Tchernobyl, et dans ce cas, si vous claquez la bise à votre tante qui a un pacemaker, le truc explose et Tati, 7 secondes plus tard, a les dents enfoncées dans le mur. Mais pourquoi, me direz-vous, est-ce que je parle des hôtels ? Eh bien parce qu'à Fukuoka, au Japon, le propriétaire d'un hôtel propose des chambres à 100 yens la nuit. 100 yens, c'est rien. Si Florian Philippot se met en vente sur le bon coin, avec son parti plus un pins de son parti, ça vaudra 100 yens. Ça correspond à 1 euro.
Et... Alors 1 euro, mais comment peut-on faire des chambres à 1 euro ?
Alors c'est très simple. En échange du coût modique de la chambre, 1 euro c'est le prix d'un repas gourmand pour Lily Rose Depp. On doit accepter d'être filmé 24 heures sur 24 et d'être live streamé sur YouTube. Alors live streamé, c'est un terme pompeux pour dire qu'on est en direct. Hein, en 87, Guy Lux était live streamé avec des vachettes sur TF1. Du coup, la diffusion génère de l'argent, l'hôtelier s'y retrouve et en plus, il crée le buzz. Hein, ça veut dire faire un coup. Par exemple, une soirée du Ku Klux Klan au Sénégal, ça ferait le buzz. Après, ça veut dire aussi perdre la vie, mais enfin, c'est accessoire. Mais attention, l'hôtelier a établi des règles. Hein. Le Japon est très ordonné. C'est la différence qu'il a avec le sac banane de Jean-Louis Borloo. Les actes sexuels sont interdits, alors que c'est tout ce qu'a priori on a envie de voir en direct sur YouTube. L'être humain est ainsi. Il veut du sexe, de la baston, du rock et des glaviots. Si c'est pour voir un couple en train de lire à deux le Télé Z, ça vaut pas trop le coup. D'autant que ça peut vous trahir. Vous êtes le panda de Mask Singer. Vous prenez la chambre à 1 euro, sans savoir que vous êtes en live. Vous retirez la tête du panda et là tout le monde réalise que vous êtes Xavier Dupont de Ligonnès. Ah la seule star du programme, puisque les autres c'est Smain et Lio. Il reste à découvrir Cookie Dingler, Jean-Pierre Chevènement et Footix. En plus, l'hôtel précise qu'il n'y a pas de son dans les lives. Donc vous voyez un type montrer à une dame une savonnette. Vous ne savez même pas s'il lui dit « Bébé, tu veux la salle de bain ?» ou alors « J'y vais d'abord ?» ou s'il lui dit « Hum, ma grosse tanche, on va se le faire ce jeu de rôle. Je suis Patrick Balkany et tu es la gardienne de prison un peu rude, sachant que j'étais très 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 méchant. » Bref, ce qui au départ était une belle idée se retrouve gâché par la pudeur des Japonais. Ces gens qui jamais ne se lâchent. Au fait de Dax, il n'y a pas un Japonais. Dans les soirées de Patrick Sébastien, on fait l'hélicoptère, il n'y a pas un Japonais, même pas un ULM ou un petit truc. Sur les plages nudistes, on est sur de l'allemand et du belge, il n'y a pas un Japonais. Du coup, l'hôtel reste un concept glauque où quand on trouve dans son lit un poil du précédent, on a l'impression de vivre une relation très intime avec quelqu'un. Alors si vous avez un euro et que vous n'êtes pas dans Mask Singer, allez-y, c'est pas cher et on vous voit juste en peignoir en train de mater France 3 ou alors une chaîne japonaise aussi déprimante que France 3.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Faut peut-être voir un psy, hein, Tanguy. Il y a du travail.
Hein. Ouais, et puis en attendant, samedi, vous pouvez le retrouver à Sanary-sur-Mer, c'est dans le Var, en attendant le psy.
Ça soigne aussi. Ouais. Des questions concernant ce qui se passe dans notre culture, dans notre actualité. Karine Viard, vous pouvez également essayer de trouver le point commun qu'il y a entre Audrey Tautou, Vincent Cassel, Pierre Ninet, Anna Girardot, Gaspard Ulliel, Jean-Paul Rouve et vous.
Ils sont tous dans OSS 117.3.
Nommés au César?
Ils sont tous... Non, pas au César.
Tous dans un film qui va...
Tous eu un César?
Ils ont tous, non, un point commun. Audrey Tautou, Vincent Cassel, Pierre Ninet, Anna Girardot, Gaspard Ulliel, Jean-Paul Rouve et Karine Viard.
Un réalisateur?
Ils font tous du cinéma?
Non.
Un grain de beauté au-dessus de la fesse?
Non.
C'est en lien avec quoi?
Plus pour Chanel.
Leur carrière, c'est professionnel.
La pub?
Non.
Un truc de César, ils n'ont pas eu un...
Non.
Au Tofu d'Or, ils vont participer au Tofu d'Or?
Non. Ah, moi j'y vais au Tofu d'Or, tu vas aussi?
Ouais, je vais faire un tour.
9 décembre. C'est Florence Foresti qui présente. Elle remet des prix d'un truc marrant.
Ah bon?
Sur la protection animale et
c'est marrant.
Et veggie.
Ah oui, c'est sûr.
Ah tiens.
Au Palais des Glaces le 9 décembre. Voilà.
Alors, c'est fait. Bon, Pierre Ninet, c'est lié quoi?
Ils
déjà
vont chanter.
Même vous, Karine Viard, vous trouvez pas?
Non.
Vous avez un point commun.
Quel point commun avez-vous avec Pierre?
La carrière.
Des films qui sont bien vendus à l'étranger.
Avant d'être connus, tous.
Ah, le Florent, le conservatoire.
Une pub?
Non.
Avant de prostitution, de la
mode? Non, non.
Ils étaient
non.
Enfants tous, avant.
Tu... Bon. Série policière.
Ah, oh.
J'ai fait c'était une série policière.
Bah oui.
Alors, pas ce petit ton, Karine. Oui, Karine Ferry.
Les enquêtes du commissaire Maigret.
Ah oui, c'est une série policière.
Bah, écoutez, commissaire Maigret, c'est pas policier.
C'est vrai que maintenant, quand on dit série policière, on pense pas forcément à Jean Richard. Non, non Maigret, c'est vrai. C'est vrai que ça n'est pas venu tout de suite.
Audrey Tautou a joué dans Les Cordiers jugés flics, Anna Girardot dans Diane, femme flic, Vincent Cassel dans Le juge est une femme, Gaspard Ulliel dans Navarro. Donc tous ont démarré par ça. Vous êtes très série d'ailleurs.
Le deviens.
C'est vrai.
J'arrive petit à petit dans ce monde merveilleux de la série. Mais moi, ce que j'aime, c'est les séries documentaires. C'est ce que je préfère. Les séries fiction. Je préfère les séries documentaires.
Par exemple, ou le documentaire de Leonardo DiCaprio sur le réchauffement climatique. Vous l'avez vu sur...
Non, ça, je ne l'ai pas vu. Mais moi, j'ai vu, par exemple, un truc qui s'appelle Wild Wild Country, sur l'arrivée d'une secte aux États-Unis et tout ça. C'est un truc de dingue. J'adore ça. Là, je commence à regarder l'affaire du petit Grégory, qui m'intéresse beaucoup.
Voilà. Et là aussi, à travers les documentaires, vous en apprenez encore sur votre métier d'actrice?
Mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que c'est des comportements complètement fous. C'est-à-dire que la vie dépasse toujours la fiction. Si des fois, tu mets des trucs dans des fictions, tu dis ah, c'est pas possible. Mmh. Mais la vie est toujours plus forte.
C'est comme faites entrer l'accusé, quoi.
Ouais. Oui, c'est incroyable.
Quelle décision vient de prendre le groupe Coldplay pour lutter contre le réchauffement climatique?
Ils arrêtent de chanter. Ils font plus de concerts.
Ok, vous êtes tous au courant, ça va, c'est pas drôle. Ils ont décidé de repousser leur tournée afin de s'organiser pour avoir un bilan carbone neutre. Autrement dit, c'est exactement, on en revient à ce que vous dites tout à l'heure.
Franchement, c'est génial. C'est un des groupes les plus connus au monde. Ouais. C'est formidable.
C'est une belle initiative.
Ouais, très belle initiative. C'est vrai. Absolument. Et ça va être compliqué pour eux.
Enfin, ça va être compliqué, mais...
Ça fait 15 ans que Fodel fait ça. Hein. Il fait plus de tournée. Hein.
Au niveau des déplacements, aucun impact carbone, puisqu'on l'a posé là, on a construit la maison de la radio autour. Voici Daniel Morin.
Ah, oh, Paris! Ah, oh, l'architecture merveilleuse de ces monuments! Ah, oh, le romantisme! Ah, oh, les embouteillages! Angoisse parisienne qui plonge nos rues dans les ténèbres entre 7h et 9h, des ténèbres où le dialogue est souvent limité, parfois fleuri, mais surtout limité.
Avance, fils de pute! T'en clignotant, grognasse! Priorité, connard! Va chier avec ton vélo! Salope de trottinette! Je vais te crever, piéton de merde!
Eh bien, peut-être que tout ça, c'est fini. Oui, c'est peut-être terminé, car si au lieu de pester, nous en tirions profit de cette situation d'immobilisme routier, ce serait pas mal. Apprendre à se connaître au lieu de s'invectiver. C'est l'idée qui a germé dans le cerveau d'un jeune niçois qui vient de lancer l'appli Carimat, une appli qui met en relation des automobilistes entre eux. Pour cela, il suffit de s'inscrire et hop, si un autre inscrit rentre ton numéro de plaque dans le moteur de recherche, c'est bingo, il y a connexion. Et quand il y a connexion, il y a contact. Quand il y a contact, il y a dialogue. Quand il y a dialogue, il y a drague. Quand il y a drague, il y a espoir. Et quand il y a espoir, parfois, il n'y a plus de klaxon.
Sévère, connard, bouge! Oh, j'ai un message.
Salut beauté, je suis devant toi, je suis coincé. Du coup, je te mate dans mon rétro, je te trouve vachement mignonne. Tu me donnes ton 06? Oh la vache, c'est l'appel de rencontre des embouteillages. Bon, ben, je réponds. Bon, et soyons drôles. Salut, moi aussi je te trouve mignon. Enfin, j'adore ton appui-tête. Alors, voilà. Voilà mon 06, appelle-moi ce soir vers 18h, on prendra les embouteillages ensemble. Oh, il m'a répondu, trop cool. Allez, j'enchaîne. Ouais, grave, on se fait les embouteillages retour ensemble, mais avant, foutu pour foutu. Tu veux pas qu'on aille à l'hôtel, là, sur la droite? Alors... T'avances, connard! Bouche et verre! Eh oui, dans les applis comme dans la vie, de pas être trop direct, ça peut tout gâcher. Après, si tout le monde est chaud, pourquoi pas, hein, on vit une époque décadente qui glisse sans vergogne sur la pente du vice, alors... Je serais pas étonné plus que ça. Moi, perso, le sexe, ça me dégoûte. Mais qui suis-je pour juger, hein? Après tout, le principe de la partouche géante à ciel ouvert sur les capots de bagnole, ça va peut-être résoudre le problème des bouches en ville, hein? Mais ça, non, j'en suis pas sûr. En fait, on fait ce qu'on veut avec son cul, ok? Mais il y a des limites, merde! C'est quoi l'étape d'après? On fait une appli de rencontre pour les gens qui s'emmerdent dans les transports en commun? Coucou, je suis le frotteur derrière vous, si on allait prendre un verre. Oh, mais bien volontiers, je trouve que vous avez un déhanchement prometteur. J'adore l'idée d'aller prendre l'apéro avec vous. Hein, pourquoi pas baiser après? Ah bah non, tout compte fait, laissez tomber pour l'apéro, je viens de jouir. Bonne journée. Mais dans quel monde vit-on, Leïla? Dans quel monde vit-on? Les embouteillages, c'est peut-être le seul moment de la journée où on est tranquille, où on peut sans contrainte, si ça nous chante, insulter la terre entière. Ça aussi, on veut nous le retirer. Ça suffit, le fascisme de l'appli pour tout et n'importe quoi. Ça suffit qu'on nous foute la paix. Ton appli de rencontre salace, tu te la gardes pour toi, pervers niçois. Tu la développes dans ta région de satire si ça t'amuse, mais ici, tu nous fous la paix. Non mais, à demain.
Tu t'es pas énervé, là.
Non. France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Tanguy Passureau, qu'est-ce que tu as retenu ou entendu sur Chanson Douce, sur Karine Viard?
Ben, j'ai entendu beaucoup de choses, mais moi, c'est un des rares livres que j'ai lu ces derniers temps, enfin, récents, parce que j'ai lu surtout des vieux trucs, des vieux machins qui, voilà.
Des Paris Match, de 72.
Voilà, c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir le film parce que j'aime bien la transposition parfois et je suis rarement déçu.
Jérémy, Crédville.
Moi, c'est cette capacité à vriller en une microseconde qui m'a saisi dans le film.
Leïla Kadrobouddhadi.
Moi, c'est l'histoire de la domination. La domination.
Ah, ça.
Ben oui, maître valet et puis la domination ethnique inconsciente qui se joue, qui se rejoue, qui rejaillit à des moments où on l'attend pas et puis voilà, c'est vraiment ces films avec cette dimension-là. Karine Viard, c'est vraiment les films où vous excellez vraiment.
Tom, il a
La palette de Karine qu'on pensait connaître et puis qu'en fait elle a grandi de jour en jour, d'année en année, donc c'est incroyable.
Daniel Morin.
Mais moi j'ai un problème avec Karine Viard, c'est que j'ai du mal à être très objectif avec vos films.
Ouais,
j'ai
un a priori
tellement positif que je suis ravi d'aller voir un film avec Karine Viard, que ce soit une comédie légère,
genre Le Petit Locataire,
ou quelque chose de beaucoup plus dur comme ça.
Merci.
À chaque fois, c'est d'aller vous voir. Vous êtes l'actrice populaire par excellence, un peu comme Annie Girardot pouvait l'être dans les années 70. On allait voir Annie Girardot et peu importe ce qu'elle faisait.
Merci beaucoup, merci à tous, c'est sympa.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous faites par contre attention à ce que vous faites.
Oui,
vous ne...
peu importe le répertoire.
C'est ça.
Je fais attention à ce que je fais, c'est-à-dire...
Les choix des films que vous... c'est là.
Oui. Enfin, alors attention, je fais attention. En fait, non, je ne fais pas du tout attention. Mais il y a des choses qui me font envie et des choses qui ne me font pas envie. C'est pas parce qu'elles me font pas envie qu'elles sont pas valables ou c'est pas parce qu'elles me font envie qu'elles sont valables. C'est vraiment complètement subjectif.
Vous avez raté Aladdin et Aladdin 2, hein.
Mais c'est pas voilà, si j'ai fait beaucoup un peu le même type de rôle et qu'on m'en propose un quatrième, je vais pas avoir envie. C'est pas pour ça que ce sera pas bien.
Et qu'aimeriez-vous que l'on dise à la sortie de Chanson Douce après avoir vu le film?
Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise?
On n'aurait pas dû laisser les enfants avec nous ce soir.
Je sais pas. J'aimerais qu'on dise, j'ai quand même aimé avoir les pétoches. C'est assez excitant.
La prochaine fois, peut-être qu'on nous recevrons dans cette émission, c'est pour votre participation au film de Laurent Lafitte, premier film de Laurent Lafitte.
Exact.
L'origine du monde.
Exact.
Un rapport avec la toile de Courbet.
Tout à fait. Alors, je ne peux absolument pas parler de ce film pour une seule et bonne raison, c'est que on n'a pas encore décidé comment parler du film. C'est-à-dire que le film est excessivement gonflé, très irrévérencieux. Et si on dit de quoi il s'agit, je pense que les gens tombent de leur chaise. Donc, je ne sais pas comment en parler, je ne peux pas le faire. Je sais juste que moi, quand j'ai reçu le scénario, j'ai ri, mais tellement ri. C'était sûr que j'allais être dedans et c'était sûr que j'avais envie d'être dedans. Et je pense que c'est un des trucs les plus drôles qui m'ait été donné de tourner.
Et qui va sortir quand?
Et qui sortira normalement dans une année.
Très bien, on va savoir être patient. Nous, on ne sait pas si on sera encore là, mais en tout cas, on sera patient. Merci Karine Viard,
merci,
et bravo.
Merci, c'est toujours très agréable.
Chanson douce, c'est demain au cinéma, en raison du mouvement de grève. Pas de carnet de campagne ni de jeu des 1000 euros. Prochain rendez-vous sur Inter, après la musique évidemment, à 13h, avec le journal de Bruno Duvic. Et nous serions là demain avec Ariane Ascaride et Robert Guédiguian. Bonne journée sur Inter.